de l'Église. Je n'ai pas demandé à Monsieur Jean-Charles l'autorisation de faire cette annonce, mais je pense que vous serez bien d'accord. Je dois, invité par l'Église, dont Monsieur Gautron est maintenant le pasteur, faire plusieurs réunions à Moutier à partir de jeudi. Et donc, j'espère que je peux apporter les salutations à l'Église et à Monsieur et Madame Gautron de l'Église du Tabernacle, et aussi particulièrement en vue de la cérémonie de dimanche prochain. Je devrais apporter le message pour la cérémonie de consécration pastorale de Monsieur Gautron. Quant à mon apport ce matin, je pense que 2 ou 3 mots d'explication sont souhaitables. Vous le savez, notre conseil a perçu qu'il pouvait y avoir dans quelques esprits un peu de trouble et a jugé utile, opportun, que nous disions très très clairement, sans agressivité si possible, ce qui nous distingue du mouvement pentecôtiste ou des mouvements pentecôtistes qui sont connus, je pense, de nombre d'entre nous. La semaine dernière, notre pasteur a prêché l'enseignement de l'Écriture à ce propos, a explicité les points doctrinaux qui sont particulièrement en débat. Et ce que nous faisons aujourd'hui est un complément. C'est le prolongement de ce que la prédication de dimanche dernier a déjà fondé solidement sur la parole de Dieu. Je compte faire une introduction relativement substantielle, mais non pas occuper cette estrade seule tout au long. Il s'agit d'un institut biblique commun où les deux autres enseignants des groupes d'instituts bibliques interviendront aussi. Je pense que M. Jean-Charles et Mlle Ruholt me rejoindront après l'introduction sur cette estrade et il y aura dialogue entre vous et nous. Avant d'entamer ce que je souhaite vous dire, je voudrais lire 2 versets, donc un passage très bref, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8. Je voudrais lire les versets 6 et 7. Il s'agit de reproches que le Seigneur, par la bouche de son prophète, adresse au peuple de Juda, à la population de Jérusalem en particulier. Et au verset 6 du chapitre 8, donc, je lis ceci. « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remaliahou. Alors, à cause de cela, voici que le Seigneur fait monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera au-dessus de son lit et s'en ira par-dessus toutes ses rives. » Vous verrez tout à l'heure quelle correspondance il peut y avoir entre le sujet que nous abordons et ce verset. C'est d'un point de vue principalement historique que je compte introduire notre entretien d'aujourd'hui. Tout au long de l'histoire de l'Église, ont surgi des mouvements, on peut parler de courants ou de tendances, de type effervescent. Vous savez ce que veut dire le terme, hein, quand vous mettez une aspirine effervescente dans un verre, ça fait des bulles. Des mouvements spirituels caractérisé par une sorte de bouillonnement dont la piété était marquée par un zèle intense, beaucoup d'ardeur de la part des fidèles qui se joignaient à ces groupes, marquée aussi par des phénomènes extraordinaires considérés par les adeptes comme des irruptions spectaculaires du surnaturel, généralement attribuées au Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit dans ces groupes recevait mention particulièrement fréquente. En général, ceux qui allaient dans ces mouvements tout au long de l'histoire de l'Église jugeaient les autres chrétiens morts ou à moitié morts spirituellement. Et ils étaient jugés par les autres eux-mêmes des agités ou des excités. Ce qu'ils appelaient vie
était appelé par les autres des ordres. Souvent, à la tête, presque toujours, il y avait des personnalités remarquables, des personnalités rayonnantes, magnétiques, qui attiraient autour d'eux ceux qui prenaient part ensuite au même mouvement. Le grand rôle de personnalité de premier plan et d'un type chaleureux est tout à fait notable. En général, ces mouvements ont entraîné des controverses. À cause de leur émergence, il y a eu des divisions. Quels ont été en général les fruits? Il faut avouer que ces fruits sont difficiles à apprécier. Il est arrivé souvent, mais je ne dis pas toujours, que les mouvements ont dégénéré, ont éclaté et ont fini par disparaître complètement. Non pas de la mémoire peut-être, mais en tout cas de la scène qu'on pouvait observer. Il arrive aussi que ces mouvements aient continué et même se soient dotés de structures, d'une organisation distincte, mais en changeant quelque peu de caractère avec le temps. En quelques générations, on peut dire que la température retombait de quelques degrés, que ces groupes s'assagissaient ou s'assoupissaient, selon le point de vue. Certains déplorant cette évolution, d'autres au contraire considérant que c'est une évolution heureuse. Ces groupes, on en trouve presque à toutes les époques, ont eu des orientations différentes et parfois divergentes, malgré les traits communs que je viens d'évoquer. Il ne faudrait pas croire que ces groupes ont tous eu le même message. Pas du tout. Je vais en donner un petit aperçu, vous en rendrez compte assez facilement. Il y a eu des doctrines tout à fait opposées qui se sont associées au succès de ces groupes, succès en tout cas de quelques années. Et on doit noter que du point de vue extérieur au moins, il y a dans d'autres religions des phénomènes assez semblables, je dis bien du point de vue extérieur. Mais dans le mouvement chassidique du judaïsme, on m'a assuré qu'il y a des phénomènes extraordinaires assez voisins de ceux que ces mouvements ont fait connaître dans l'histoire de l'Église chrétienne, ou bien dans le soufisme de l'islam. Je me rappelle au dernier congrès de théologie évangélique européenne auquel j'ai assisté, il y avait un spécialiste venu de Londres, qui disait avoir eu, je crois, la cassette vidéo d'une réunion soufie de notre temps. Exactement semblable, disait-il, à une réunion charismatique, comme on en connaît dans les cercles évangéliques. C'est juste un fait à constater, je ne sais pas d'en donner une interprétation pour le moment, mais il faut savoir que ces phénomènes, donc effervescents, ne marquent pas seulement l'histoire du christianisme au fil des siècles, mais aussi d'autres religions. Quelques jalons dans l'histoire de l'Église, puisque là je vais me contenter de l'histoire chrétienne, conduisant au phénomène qui nous intéresse le plus, au type du genre que je viens de définir, qui nous est le plus familier, à savoir le pentecôtisme ou les pentecôtismes qui ont marqué le XXe siècle. Quelques jalons. Bon, déjà du temps des apôtres, il est probable que de telles tendances se sont manifestées dans l'Église. C'est en tout cas une interprétation assez plausible des lettres aux Corinthiens. Beaucoup pensent que les spirituels ou super-spirituels de Corinthe ressemblaient assez au mouvement qu'on a connu ultérieurement et que je suis en train d'évoquer. Peut-être était-ce le parti du Christ. Vous savez que certains disaient « Moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, Céphas, moi je suis d'Apollos. » Et puis certains disaient « Je suis du Christ. » Peut-être était-ce cette partie de l'Église dont la description correspondrait à peu près à ce type de christianisme que nous sommes en train de considérer. Après la mort des apôtres, mais peu après, il y a sans doute eu des prophètes itinérants qui avaient un peu le même profil. Dans le livre qu'on appelle la Didaché, qui est un écrit qui est daté par la plupart des spécialistes aux alentours de 90
de l'an 90. Probablement, c'est entre 80 et 110 de notre ère qu'il faut dater cet ouvrage. Il est question de prophètes qui arrivent, qui prétendent prophétiser. Alors, le texte donne un certain nombre de critères pour essayer de voir si c'est un vrai prophète ou si ce n'est pas un vrai prophète. S'il prophétise en particulier qu'il faut lui donner à manger, un bon repas, c'est un faux prophète, nous dit le texte. Ce sont des critères assez rudimentaires, mais qui nous montrent qu'il y avait un type de christianisme quelque peu effervescent, dont on craignait qu'il introduise du désordre, déjà à ce moment-là. Mais le grand mouvement dans l'Antiquité chrétienne, qui correspond au descriptif que j'ai donné, et qui a été puissant, qui a constitué une vague très, très forte, c'est le montanisme. Le montanisme qui a pris son essor vers 150-155 après Jésus-Christ, bien sûr, donc au IIe siècle, dans l'Église ancienne. Il tire son nom du prophète en chef qui a conduit l'affaire, qui s'appelait Montanus, d'où le nom de montanisme. C'était un ancien prêtre du culte de Cybèle, un culte assez frénétique païen, qui s'était converti, mais qui a estimé être rempli du Saint-Esprit pour un ministère prophétique. Il était accompagné de deux prophétesses, Prisca ou Priscilla et Maximilia. Et ce trio a eu un succès considérable. Disons qu'il y a eu des milliers et des milliers de chrétiens de l'époque qui ont suivi ce mouvement montaniste. On les a souvent appelés les Phrygiens ou Cataphrygiens parce qu'ils venaient de la région d'Asie mineure qui s'appelle la Phrygie. C'est d'elle aussi que vient le bonnet phrygien, dont nous coiffons la Marianne nationale. Ce mouvement était vraiment centré en Phrygie. C'est dans la ville de Pépouza, en Phrygie, qu'ils appelaient Jérusalem. Certains ont pensé qu'ils avaient prophétisé que la nouvelle Jérusalem allait descendre du ciel et venir à Pépouza. Mais ce n'est pas tout à fait sûr qu'ils l'aient prophétisé tout à fait en ces termes. Ça a été dit ensuite, mais nous n'avons pas la preuve formelle qu'il n'y a pas eu de déformation. Et ils ont lancé un grand mouvement accusant la grande église de tiédeur. Ils étaient hyper légalistes. C'est pour ça que je vous dis attention, il y a des doctrines très diverses qui se sont associées à ces mouvements. Ils interdisaient par exemple rigoureusement le remariage des veufs. Pas des divorcés, ça c'était le cas d'autres aussi, mais le remariage des veufs comme une impureté. Il multipliait les jeûnes obligatoires. Saint Jérôme, un peu plus tard, mais il en existait encore, disait qu'il y avait trois fois carême chez ces montanistes. Donc, c'était des gens qui en voulaient, mais très légalistes dans leur manière de faire, très organisés, avec une piété ardente et qui attendaient le retour du Seigneur comme tout à fait imminent. Et il semble que Maximilia, qui est morte la dernière des trois en 179, avait prophétisé que ça allait être une question de mois ou d'années, qu'il n'y aurait plus de prophètes après elle. Donc un mouvement dont vous voyez qu'il correspond assez bien au descriptif que je vous ai donné. Il a eu beaucoup d'influence et il a duré environ 2-3 siècles ensuite. Il s'est organisé, il a eu une existence distincte, parce qu'il y a eu controverse, il y a eu condamnation par les autorités des églises d'Asie mineure à l'époque. Et ce mouvement est souvent le mouvement de référence pour ces tendances, disons, effervescentes. Mais il y en a eu, par la suite, qu'on connaît plus ou moins bien. Pendant tout le Moyen-Âge en particulier, c'est les mouvements de ce type ont été combattus avec le bras séculier, avec la contrainte et les armes, et ce sont uniquement leurs persécuteurs qui en ont fait la description, en ont déterminé l'histoire. On peut soupçonner des déformations. Ils ont été accusés de beaucoup d'hérésies, mais les ont-ils vraiment professées? C'est difficile de l'estimer très justement. Mais au temps de la réforme dont nous sommes héritiers, là encore, de tels mouvements se sont manifestés. Et on rapporte en particulier ce qui s'est passé au début de l'année 1522 dans la ville où Luther avait lancé le grand message de la réformation de l'Église, Wittenberg. Là, des prophètes, comme on les a appelés, prophètes ou inspirés, venus de la ville de Zwickau, sont arrivés Alors que Luther n'y était pas. Luther, qui craignait pour sa vie, et ceux qui le soutenaient craignaient peut-être encore plus que lui pour la vie de Luther. Luther avait été kidnappé sur ordre du prince et mis en résidence, surveillé en quelque sorte dans un château, le château de la Wartburg, pour qu'il soit en sécurité, sous un faux nom, et personne ne savait où il était. Alors il a continué à travailler, c'est là qu'il a traduit une partie de la Bible, et puis on lui a appris, alors qu'il était dans ce château de la Wartburg, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de visiter il y a quelques années, on lui a appris que ce groupe de prophètes, avec Thomas Münzer et d'autres, étaient arrivés à Wittenberg, et que c'était la grande pagaille qui changeait tout, que tout le monde s'excitait. Alors, malgré les risques qu'il encourait, Luther s'est échappé de la Wartburg, il est rentré à Wittenberg, et au mois de mars, simplement par sa prédication, en une semaine, 10 jours de prédication, il a rétabli l'ordre, il s'était rendu compte que ce désordre risquait de ruiner le travail de réformation. Bon, c'est un épisode qu'on a retenu. Mais par la suite, au XVIe, au XVIIe siècle, au XVIIIe, d'autres mouvements de ce même genre ont aussi été enregistrés. Au XVIIe siècle, par exemple, le mouvement des Quakers. Vous avez sans doute entendu parler du mouvement des Quakers qui a été lancé par un certain George Fox. Le mot Quaker, que l'on connaît avec les Quaker Oats, les céréales, etc., il veut dire trembleur, hein. To quake, c'est trembler. C'est parce que dans les réunions de ces Quakers au début, je crois plus que ça se passe beaucoup aujourd'hui, mais les gens étaient saisis de tremblements, phénomène qu'ils attribuaient au Saint-Esprit. Il y a eu, pour nous Français, cela compte, aux alentours de 1700, le prophétisme sévenol. Ça a été vraiment extraordinaire. Alors que le roi Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes, qui donnait une place légale aux protestants, avec des restrictions. Alors que les protestants, donc, étaient pourchassés, que des milliers et des milliers, sans doute plus de 100 000, ont dû s'enfuir à l'étranger pour continuer à professer leur foi, que tous les pasteurs avaient été suppliciés ou obligés de fuir, donc le peuple des Cévennes, le peuple protestant des Cévennes s'est retrouvé sans guide spirituel, et il s'est produit un mouvement tout à fait extraordinaire de prophétisme. Le plus étrange dans ce mouvement, ça a été que la plupart des prophètes étaient des enfants, des enfants souvent illettrés, se mettant tout à coup à parler en bon français un message, alors qu'il ne parlait que patois, un message prophétique dit en français, allant jusqu'à des enfants qui ne parlaient pas encore de 12-13 mois, d'après ce qu'on a enregistré. Phénomène prophétique étonnant qui a ravivé la foi, qui a donné le courage aux Cévenols de résister aux troupes du roi, mais j'ai ici avec moi un article où un auteur charismatique dit « le mouvement a déraillé ». C'est un mouvement dont on reconnaît généralement de tous les côtés d'où on l'observe qu'il a dégénéré, qu'il a déraillé. Les prophéties sont devenues essentiellement des prophéties de guerre pour conduire les bandes des camisards contre les troupes du roi. Puis finalement, les bandes des camisards ont été vaincues. Il y a eu un tel désordre que l'on considère habituellement le pasteur Antoine Cour, dont le nom a été choisi pour le foyer des étudiants à la faculté de théologie évangélique, le pasteur Antoine Cour, comme le restaurateur du protestantisme en France à cette époque. Antoine Cour, après que le mouvement de prophétisme avait dégénéré, a réorganisé les choses, a rétabli la discipline. Et on dit, généralement, c'est grâce à ce travail que le protestantisme n'a pas été complètement balayé de la France de l'époque. Mais il faut savoir que cet Antoine Cour a complètement interdit le prophétisme. Il a réprimé ce prophétisme en excluant. Je pense qu'il a été même d'une brutalité excessive. Mais voilà un exemple historique encore que l'on peut citer. Des phénomènes extraordinaires se sont produits associés au grand réveil, dont je pense que nous sommes toujours héritier, on l'a appelé dans les livres d'histoire, le grand réveil du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, Angleterre et Pays de Galles surtout, et outre-Atlantique, aux États-Unis, avec John Wesley, George Whitefield et Jonathan Edwards. À coup sûr, ce grand réveil, qui était surtout marqué par une prédication appelant à la conversion, à la sanctification, a été marqué par des phénomènes physiques assez étonnants. Et il y a eu controverse à ce propos, en particulier en Nouvelle-Angleterre, outre-Atlantique. Et Jonathan Edwards a été obligé de défendre le réveil contre des critiques et de défendre même certaines manifestations extraordinaires. Et ainsi de suite, vous voyez, à toute époque, il y a eu des mouvements de ce genre. Il y a eu les réveils divers, essentiellement dans le monde anglo-saxon du XIXe siècle. Et c'est dans le prolongement, indubitablement, que se situe la naissance du pentecôtisme aux alentours de 1900. Il y a déjà certaines réunions, certaines circonstances de la fin du XIXe siècle, 1895 ou 16, qu'on cite à l'origine du pentecôtisme. Plus souvent, on cite une réunion à Los Angeles en 1906, dans une salle de la rue Azusa à Los Angeles. Mais vous voyez, en gros, c'est le début du siècle. Le pentecôtisme apparaît dans le prolongement de cette tradition, si on veut employer le terme, des réveils et des phénomènes extraordinaires. Qu'est-ce qui caractérise le pentecôtisme à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'on emploie ce mot qu'on n'employait pas auparavant? Je pense qu'il y a deux traits qui sont caractéristiques, puis deux autres qui sont associés. Vous voyez, je schématise, hein, j'y vais simplement à quelques grands traits. Avec le pentecôtisme, la doctrine de la deuxième expérience, de la deuxième bénédiction, d'une deuxième étape de vie chrétienne, qui avait été introduite par Wesley, en fait. Cette idée d'une deuxième expérience qui affectait une partie du mouvement des réveils du XIXe siècle, s'est trouvée associée à un autre élément, le parler en langue. Il y avait un certain nombre, disons, de chrétiens, de prédicateurs, qui avant les pentecôtistes disaient, il y a une deuxième expérience, qu'ils l'appelaient même baptême du Saint-Esprit, mais qui en restaient là, disaient, c'est une deuxième expérience à laquelle nous sommes invités. Et puis, le pentecôtisme est venu en disant, et le signe de cette deuxième expérience, ce qui est obligatoire pour montrer que cette deuxième expérience a lieu, c'est le parler en langue. Et c'est cette conjonction de l'affirmation d'une deuxième expérience comme baptême du Saint-Esprit et du parler en langue qui a caractérisé la nouveauté du pentecôtisme. Et puis deux autres éléments ont été associés, je pense qu'ils sont importants à mentionner aussi maintenant, l'accent sur la guérison du corps, sur la guérison miraculeuse du corps. Généralement, les pentecôtistes ont prêché que quiconque mettait sa foi suffisamment dans la puissance de l'esprit pour guérir, devait être guéri dans son corps. Et l'expansion du pentecôtisme a été liée à ce qu'on a appelé les réunions de guérison, même si certains ont quand même été plus nuancés. Et puis, dernier trait que je mentionne pour ce pentecôtisme, une réviviscence des autres dons spirituel de type spectaculaire, et en particulier la compréhension de la prophétie comme un don qui vous tombe dessus en quelque sorte verticalement, qui a un caractère surnaturel marqué, considéré non pas comme le don qui permet au pasteur de prêcher, c'est comme ça qu'on l'avait compris dans les siècles antérieurs, mais comme un don qui permet tout à coup à quelqu'un de savoir quelque chose et puis de dire, généralement de manière relativement brève, quelque chose au nom de Dieu. Et cela sans qu'il ait nécessairement été reconnu comme un ancien de l'Église, comme un pasteur. Ce trait-là, avec donc une participation très diverse dans l'Église à la parole, et quelque chose d'inattendu dans la manière dont les cultes se célébraient. On ne sait jamais ce qui va se passer. sont caractéristiques du pentecôtisme, de ce qu'on appelle assez souvent maintenant la première vague. C'est la grande et puissante vague née au début du siècle qui a enfanté une multitude de dénominations diverses, parce que les groupes pentecôtistes sont très divers, mais le principal, c'est sans doute celui des assemblées de Dieu, celui qui est le plus structuré, le plus stable, le mouvement pentecôtiste médian, pourrait-on dire. Alors il faut savoir que pour ce pentecôtisme, comme pour beaucoup d'autres mouvements antérieurs, l'émergence s'est accompagnée de controverses et de divisions. Les réactions en général des autres ont été plutôt négatives, il y a eu des accusations mutuelles, et les choses ne se sont pas passées très paisiblement. Ça a dépendu des pays. Je pense qu'en France, ça a été assez moyen. Mais par exemple, en Allemagne, les évangéliques, après avoir étudié le nouveau phénomène pentecôtiste, ont été unanimes pour le condamner très durement, et aujourd'hui encore, on enregistre une difficulté plus grande de communication entre pentecôtistes et non-pentecôtistes que dans les autres pays, en Allemagne, à la suite de cette décision qui avait été prise à la fin de la première décennie du siècle, en Allemagne. Ça a dépendu des pays. Et notre Église a été touchée. Je ne sais pas si vous le savez, mais peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale, donc je ne sais plus si c'est 38, je pense que c'est aux alentours de 38, il y a eu sécession de tout un groupe de notre Église. Notre Église, qui était connue comme une Église où la prédication du réveil avait une grande place, Ruben Sayens avait été comme une sorte de porte-parole du réveil du Pays de Galles dans toute une partie de son ministère, notre Église a jugé que le mouvement pentecôtiste, qui à ce moment-là commençait à s'étendre en France, en particulier avec le ministère d'un évangéliste venu d'Outre-Manche, Scott, je crois que c'était d'Outre-Manche, que ce mouvement-là n'était pas conforme à la parole de Dieu sur un certain nombre de points. Et il y a eu un groupe dans l'Église qui a refusé de suivre l'avis majoritaire et qui s'est séparé. Notre Église a souffert d'une dissidence, une scission à ce moment-là. Donc nous avons été touchés par cette histoire. Alors le mouvement pentecôtiste dans le monde entier s'est beaucoup agrandi. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a continué à s'étendre. Il y a maintenant des dizaines de millions de pentecôtistes dans le monde, avec le mouvement des Assemblées de Dieu comme le mouvement principal, je crois. Ce mouvement, vers la fin des années 50, tendait à se rapprocher dans les conclusions doctrinales, souvent, des positions des évangéliques non pentecôtistes. Donc, dont nous sommes. Mais c'est alors que s'est produite une deuxième vague, qu'a surgi une deuxième vague, c'est comme ça qu'on parle assez couramment, qui a été la vague du renouveau charismatique à partir du début des années 60. On a parlé aussi de néo-pentecôtisme, ce qui est une autre façon juste de parler. Il y a eu une certaine influence du pentecôtisme ancien sur ceux qui ont lancé ce mouvement. Il a commencé aux États-Unis, mais à coup sûr, il a eu des traits suffisamment nouveaux, suffisamment différents du vieux pentecôtisme pour que l'on emploie une autre expression et pour qu'on le considère comme un phénomène historique distinct. Alors, quels ont été les traits nouveaux et par rapport au pentecôtisme de ce renouveau charismatique? Le premier trait, le plus évident, c'est qu'il a été écuménique là où le premier pentecôtisme avait choisi de fonder une nouvelle dénomination, ou deux nouvelles dénominations. Le renouveau charismatique a touché des protestants de toutes sortes. Parmi les premiers, il y a eu des épiscopaliens. Et au lieu de quitter leurs églises, comme l'avaient fait ceux que le pentecôtisme avait gagné précédemment, ils quittaient leurs églises d'origine et puis fondaient une église pentecôtiste, les personnes touchées par le renouveau charismatique des années 60 sont restées dans leurs églises, ont constitué une aile charismatique au sein de leurs églises. Il y a eu toutes sortes de protestants et les catholiques. Et le mouvement charismatique a été caractérisé par une fraternisation catholique-protestante. À bien des égards, D'ailleurs, dans certains rassemblements, je pense à un rassemblement de Strasbourg, du mouvement charismatique en France, la note écuménique, nous sommes ensemble dans la communion de l'esprit, était beaucoup plus forte qu'une note pentecôtiste proprement dite. Oui. Donc ça, c'est le premier trait. Au lieu de susciter le même type de division, en tout cas, que le premier pentecôtisme, et de constituer un ensemble indépendant, le renouveau charismatique a gagné dans toutes les dénominations en y restant et en comprenant des catholiques aussi bien que des protestants. On a pu marquer quelques différences entre les pays. C'est un mouvement conduit plutôt par des laïcs, même du côté catholique aux États-Unis, et conduit par des prêtres plutôt en France, mais je passe sur ces détails. Du point de vue de la doctrine et du style, des différences aussi. Du point de vue de la doctrine, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu assez souvent atténuation des points décisifs du pentecôtisme. Ce n'est pas le vrai de tous les charismatiques, comme on les a appelés à ce moment-là, mais c'est vrai de beaucoup d'entre eux qui sont prêts à dire « D'accord, d'accord, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une deuxième expérience dans la Bible. » Ils sont prêts à le dire comme ça. J'en ai rencontré suffisamment pour vous en assurer. Ou bien ils sont prêts à dire « D'accord, d'accord, le parler en langue n'est pas obligatoire pour marquer qu'on a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. » Oui. Mais il reste quand même assez proche de l'inspiration pentecôtiste, parce que tout en disant « d'accord » dans la Bible, c'est pas ça, il parle quand même encore du baptême du Saint-Esprit comme si c'était une deuxième expérience. Ou bien ils disent « le parler en langue, c'est ce qui est habituel, normal pour marquer. » Oui. Donc il y a une atténuation sans qu'il y ait un changement très radical sur de tels points. Et vous avez toute une gamme de positions diverses. Deuxième grande différence, un autre style, une autre ambiance. Le style pentecôtiste ancien est un style qu'on pourrait dire très militant, il faut foncer, il y a comme un effort pour aller dans le sens qu'on croit, celui de l'esprit. Et il y a une évangélisation de type que d'autres jugent agressive, en tout cas, très, très facilement. Et le recrutement a été un recrutement souvent très, très populaire. Le mouvement charismatique, donc de la deuxième vague, ne correspond plus à cette description-là. Il a touché beaucoup plus des classes moyennes, déjà du point de vue du recrutement social. Il a mis beaucoup plus l'accent sur la détente, une décontraction, sur la louange, une louange où il s'agit de trouver l'épanouissement. Il y a certains traits mettant l'accent sur les déblocages psychologiques. C'est là que l'accent a été mis. Et dans le prosélytisme, beaucoup moins de chocs directs. Il me semble que ça crée un autre climat, là où le baptême du Saint-Esprit est conçu comme la deuxième expérience obligatoire pour avoir la puissance dans l'évangélisation chez les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit devient plutôt une expérience de déblocage où des parties de la personnalité qui étaient inhibées, un peu paralysées, sont libérées pour la joie de la louange. Vous voyez la différence, la nuance. Donc, deuxième vague, qui est encore très, très présente autour de nous, cette vague qu'on peut appeler charismatique. Troisième vague, ça c'est une façon de parler qui est déjà peut-être un peu plus discutable, mais elle est en usage. Ce sont les promoteurs qui l'ont inventée. Troisième vague, début des années 80, un mouvement dont les têtes de file, je les ai rencontrés l'un et l'autre personnellement, sont John Wimber et Peter Wagner, deux Américains, qui ont mis l'accent, alors, sur d'autres points encore. Leur mouvement a rayonné à partir de la Californie, mais a eu de nouveau une influence mondiale, et en particulier en Grande-Bretagne, où les tournées de Wimber en Grande-Bretagne ont eu de l'influence, puis il est venu à Paris aussi, hein, vous le savez peut-être. Premier accent qui a été mis, l'idée du conflit de puissance. L'évangélisation met aux prises la puissance diabolique et la puissance de Dieu. Et évangéliser, ce n'est pas tant apporter des vérités que les gens devront comprendre et auxquelles ils devront consentir, mais c'est vraiment le clash des puissances spirituelles. Et il s'agit de montrer par les signes et prodiges que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance du diable. Donc c'est je pense, ce thème qui a été au début, au premier rang, et qui sans doute est caractéristique de ce mouvement, de la troisième vague, avec grand accent sur les signes et prodiges. Mais attention, est-ce que ça fait partie un peu de la stratégie, je ne sais pas, mais dans ce mouvement, plusieurs responsables ont dit, nous ne sommes pas pentecôtistes. Et il y a beaucoup moins d'accent sur les éléments proprement pentecôtistes de doctrine que même dans le renouveau charismatique antérieur. Il n'y a pas d'insistance du tout sur une deuxième expérience que vraiment tout le monde devrait faire, que certains ne font pas cependant. Non, c'est plutôt l'idée de la puissance de l'esprit qu'il faut se laisser se manifester, mais il n'y a pas une doctrine très, 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 très rigoureuse. Et John Wimber, je pense, a essayé de persuader les évangéliques qu'il n'était pas pentecôtiste, mais que c'était une expérience de la liberté dans l'esprit à laquelle il invitait les autres. Donc, une insistance moins doctrinale dans ce mouvement de Wimber, et aussi, je pense, pour en reparler éventuellement, quelques ambiguïtés sur la guérison. Et puis, il y a eu une évolution, bien qu'elle ne représente pas une rupture par rapport à ce que je viens de dire, avec un accent de plus en plus fort sur les esprits territoriaux et la lutte spirituelle contre les esprits territoriaux. La guerre spirituelle à mener contre l'esprit, le démon qui a la maîtrise de tel quartier, de telle ville, peut-être même de telle maison. Et l'évangélisation ne peut pas avoir d'effet si on n'a pas commencé par livrer bataille spirituelle aux démons, à l'esprit qui contrôle ce territoire. Voilà la thèse qui a été en honneur en particulier depuis 7-8 ans, je pense, une dizaine d'années dans ce mouvement. Et alors, de ce mouvement est né un autre encore, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce que je pense que ce n'est pas encore pour nous la préoccupation majeure. Certains parlent de quatrième vague. C'est peut-être une simple vaguelette ou une éclaboussure de la troisième vague. Mais parmi les églises du groupe de John Wimber, donc à Toronto, il y a une église qui est le siège de phénomènes extraordinaires, qu'on appelle Bénédiction de Toronto, depuis le début 94. Et ça suscite à l'heure actuelle beaucoup de remous dans le monde entier, avec des controverses. Ce qui caractérise cette bénédiction dite de Toronto, ce n'est pas de nouveau un message nouveau particulier, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de point de différence par rapport à la ligne de Wimber, mais c'est à la fois l'intensité et la multiplication des phénomènes corporels extraordinaires. On a trouvé certains de ces phénomènes dans d'autres réveils, dans le pentecôtisme. Les gens qui tombent dans la réunion tombent par terre, qui restent par terre comme sans force pendant un bon moment, ou qui pleurent sans pouvoir s'arrêter pendant longtemps. Mais là, il y en a 10 fois plus que ce qu'on avait l'habitude de voir, même dans les réunions les plus pentecôtistes. Donc, c'est en quantité beaucoup, beaucoup plus grand. Et puis, alors, il y a d'autres phénomènes beaucoup plus rares, ou qu'on n'avait guère vu avant, qui tiennent aussi beaucoup de place. Des fous rires qui durent des heures, des cris d'animaux, rugissements de lions, mais aussi aboiements, caquettements. Et tout ça est considéré comme le signe que l'esprit est puissamment à l'œuvre. Et les gens en témoignent qu'ils ont reçu de grandes bénédictions, un amour de Dieu renouvelé, un amour du Christ. Certains ont été guéris physiquement. Voilà ce qu'ils disent lorsqu'ils sont passés par cette expérience-là. Alors, on peut parler donc de quatrième vague. Voilà donc le schéma historique conduit jusqu'au point où nous sommes, hein, jusque vraiment à la fin 95. Alors maintenant, j'indique, avant que nous puissions avoir entretien, quelles sont à mes yeux les zones problématiques dans notre relation à cette tendance qui renaît de génération en génération, avec des accents différents quant à la doctrine, mais avec certains traits que l'on doit reconnaître comme commun. Quelles sont les zones problématiques, ce qui peut nous gêner, non pas nous personnellement, mais par rapport à la Bible, par rapport à l'Écriture. Je souligne tout de suite que si je mentionne ces domaines, ce n'est pas pour dire que tous les pentecôtistes tombent dans les pièges que nous croyons présents. Non, je simplifie, je suis forcé de parler de ce qui est prépondérant, mais il peut y avoir des exceptions. Ça, c'est, et des degrés tout à fait divers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je ne prétends pas, en disant ce qui me gêne là, que nous soyons exempts, dans notre Église même, de travers qui peuvent ressembler, ou d'autres travers qui sont juste inverses. Je ne prétends pas adopter là une position de supériorité, mais je dis devant Dieu ce qui me semble être gênant et qui m'empêche de suivre, non pas de collaborer, avec certains en tout cas. J'ai été invité à parler dans des églises pentecôtistes et je suis heureux de collaborer parfois avec des frères pentecôtistes que j'estime beaucoup. Donc, entendons-nous bien, ils sont proches. Et j'ai souvent dit, parce que ça correspond à mon expérience, que je trouve beaucoup plus agréable et fructueux de collaborer avec un frère pentecôtiste mûri, qui en a vu et qui a tiré quelques conséquences, qu'avec certains frères non pentecôtistes évangéliques qui louchent vers le pentecôtisme, qui ont toujours l'impression que là, ce serait mieux si... ils sont souvent assez pénibles, ceux-là. Donc, vous voyez, je ne veux pas du tout, par ce que je vais mentionner maintenant, vraiment condamner ces frères avec lesquels je suis tout à fait heureux de collaborer. Mais je mentionne ce qui me semble problématique et sur quoi nous devrions peut-être continuer de parler. En tout cas, voici d'abord les questions de doctrine proprement dites. J'ai souligné qu'elles sont surtout très, très carrées dans le pentecôtisme ancien. La question du baptême du Saint-Esprit, qu'entendons-nous sous ce terme? La question du parler en langue, de la guérison. Et sur ces questions, je pense que M. Jean-Charles a donné l'instruction voulue la fois dernière. Nous pourrons reparler dans quelques instants si vous le voulez, mais je pense que vous avez les instruments pour être tout à fait au clair. Je mentionne aussi les livres extrêmement utiles, et c'est facile à lire, et très bien informé, de M. Alfred Kuhn. M. Alfred Kuhn a écrit sur ces sujets. Deuxième plan, alors là c'est plus difficile peut-être à énoncer, mais il faut le faire. Il y a le problème de la pratique effective. Il y a la doctrine officielle affichée, mais il y a aussi ce que font les pentecôtistes charismatiques, wimbériens, etc. Et moi, je vous avoue que parfois, je trouve qu'il y a un décalage. Et je ne peux pas dire, ah bon, je ne considère que la doctrine alors. Non, non, il y a quand même aussi à voir ce qui, dans le mouvement, est mis au premier plan. Et là, il y a certaines choses qui me paraissent gênantes. Je prends l'exemple de la guérison. Je prends quelques exemples pour que vous compreniez bien. Vous avez, je pense, la plupart des pentecôtistes, en tout cas des assemblées de Dieu et des charismatiques, qui vous diront, oui, bien sûr, la plus grande œuvre de Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. La guérison n'est pas ce qui compte le plus. Ils diront, peut-être même, c'est pas mal d'entre eux en fait, surtout en petit comité, si vous leur demandez, dans une réunion pastorale, oui, Dieu ne guérit pas tout le monde, tous ceux qui ont la foi, Dieu peut très bien préférer ne pas guérir. J'ai entendu clairement, par exemple, de Wimber, qui lui-même est malade et n'est pas guéri. Et puis, vous voyez comment ils font dans les réunions publiques. Et ça n'a pas l'air d'être ça. John Wimber, quand il a parlé sous la tente à la Porte Dorée, a consacré les 90% de sa prédication au sujet de la guérison, à peu près, et donnait vraiment l'impression, c'est comme ça que, à mon avis, tous ceux qui étaient là pouvaient comprendre ce qu'il disait, que si quelqu'un a la foi, il est sûr de pouvoir être guéri. Il y a un décalage qui...
qui est gênant même dans le cas d'un modéré comme Wimber. Donc, ça crée un problème pour les phénomènes physiques de Toronto, c'est un peu la même chose. Certains responsables nous disent, mais c'est pas ça qui est important. Mais non, ça, d'accord, c'est pas important. Et puis en fait, les gens vont-ils là-bas par dizaines de milliers à cause de ces phénomènes physiques, c'est d'eux que l'on parle. Qu'est-ce qui est pris par les responsables sur place comme le signe que l'esprit a vraiment été à l'œuvre? Les phénomènes physiques. C'est quand les gens tombent que ceux qui prient pour eux sont contents. Et c'est manifeste, tant qu'ils ne sont pas tombés, ils sont considérés comme n'ayant pas la bénédiction. Quand ils sont tombés, ils sont considérés comme l'ayant. Vous voyez ce que j'appelle un décalage là, qui me gêne. Il y a aussi le problème du parler en langue. Est-ce que le parler en langue, ce qu'on appelle parler en langue dans le pentecôtisme, est le vrai parler en langue de la Bible, qui, moi je crois pouvoir le prouver, est l'usage de langues étrangères réelles? Ça semble très douteux. Ça semble très douteux. Il y a quelques cas, oui, mais en général, je pense que c'est plutôt un phénomène psychique, mais que ce n'est pas le vrai parler en langue biblique. Donc, ce problème-là, de la pratique comme impliquant autre chose, proclamant un message sans que les mots y soient, différent de celui de la confession de foi, différent de la prédication. Troisième problème, celui d'orientation concernant le style, l'ambiance, l'atmosphère, les valeurs qui sont promues ou qui sont rejetées. Je pense qu'il est manifeste, surtout dans le mouvement charismatique et les troisième et quatrième vagues, mais ça s'est déjà senti dans le pentecôtisme ancien, que l'on rejette ou que l'on voit d'un œil soupçonneux toute tentative de juger de manière critique ce qui se passe. Ceux qui prennent du recul et disent « Attention, je vais voir, voyons, j'observe, je vérifie par la Bible, est-ce que c'est bien comme ça, etc. » sont considérés, parce qu'ils le font déjà, comme des orgueilleux, des arrogants, qui refusent de se laisser entraîner par le grand courant de l'esprit, qui s'apparente aux pharisiens dans le Nouveau Testament. C'est une attitude vraiment très très répandue. Il y a même parfois des malédictions qui sont proférées. Le seul fait de mettre l'accent sur le contrôle par la raison, sur le bon ordre, sur la bienséance, sur la nécessité de tout vérifier par l'Écriture, est mis sous une lumière défavorable. C'est vraiment, non pas universel, mais vraiment très très souvent rencontré. Quant à l'ambiance, et il semble assez évident que ce n'est pas pour rien, parce que plusieurs des leaders semblent utiliser les techniques d'excitation de foule, bien connues, hein, qu'emploient aussi les hommes politiques, mais on chauffe l'auditoire, on essaye de créer une sorte de fusion où les individus n'ont plus leur conscience distincte pour essayer de juger des choses, mais où il y a un phénomène de masse qui se produit. On le fait en suscitant dans l'auditoire des comportements de masse. Tout le monde doit faire la même chose. Il y a une place énorme de la musique, d'une musique très répétitive, souvent beaucoup de décibels, et on sait que c'est comme ça que ça marche dans le monde. Nous sommes fabriqués de telle sorte que cela tend à estomper au moins l'activité du jugement rationnel. Ça déclenche les émotions, même physiquement. Il me semble que c'est manifestement ce qui se passe. Et que pour que ça marche bien, cela, cette technique d'entraînement collectif, il faut justement qu'il n'y ait pas des gens qui disent « Attention, moi je prends du recul, je veux essayer de juger ce qu'il en est. Est-ce que c'est de Dieu, est-ce que ce n'est pas de Dieu ?» S'il y a des gens comme ça, alors ça ne marche pas. Donc ils disent « Surtout ne faites pas ça, vous ne serez pas bénis. » Mais comparons alors avec la Bible. Moi je prends du recul là, incontestablement. Je remarque que nulle part dans la Bible, vous n'avez ce genre de conseils qui soient donnés. Au contraire, Paul dit « Je vous parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je vous dis. » Le livre des Actes nous propose l'exemple des Béréens, des Juifs de Bérée, qui lorsque l'apôtre Paul parle, vérifient par les Écritures si ce qu'il disait était exact. Nulle part, cette suspension
de la raison n'est proposée comme une attitude spirituelle. Au contraire, dans toute la Bible. Ça, je crois que c'est vraiment très, très clair. L'orgueil spirituel, bien sûr, est dénoncé. Mais l'exercice du discernement, par l'usage de la raison que Dieu nous a donnée, est recommandé tout au long. Et les valeurs d'ordre, de maintien de soi, souvent, les pentecôtistes ou charismatiques, là, se réfèrent à des textes de l'Ancien Testament, et surtout des premières périodes de l'Ancien Testament, au temps des juges de Samuel, où la prophétie faisait se rouler par terre un Saül, soudain saisi par l'Esprit. Mais notre référence est quand même d'abord le Nouveau Testament. Ce genre de choses, vous ne trouvez pas dans le Nouveau Testament. Pas du tout, du tout. Et tous les conseils, tous les avis qui sont donnés vont dans l'autre sens. Plutôt dans le sens de l'ordre, de la dignité, du contrôle de soi. Voilà le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Alors, je pense quand même que c'est quelque chose de gênant. Pour moi, c'est un autre plan sur lequel j'ai des réticences. Alors, je sais bien qu'il faut tenir compte d'une certaine diversité, là. Et que peut-être nous n'en tenons pas assez compte dans notre Église. Il y a la diversité des tempéraments et il y a la diversité des cultures. Oui, c'est vrai que bien des réunions charismatiques font penser à des concerts rock, à culture rock. Et c'est vrai qu'il y a une marge de variation qu'on peut admettre selon les tempéraments, l'éducation, l'origine culturelle. Mais je voudrais quand même dire que cette affaire de culture ou de tempérament n'est pas neutre. Il y a des directives du Nouveau Testament pour tous ceux qui ont tous les tempéraments qu'on peut imaginer. Notre culture, c'est une culture résolument antichrétienne. Vous savez, bien des groupes rock sont des satanistes par confession d'antifoi délibérée. Il y a une révolte contre l'ordre moral ancien de notre culture, qui était inspiré par la Bible, il n'était pas purement chrétien, mais qui était inspiré par la Bible, et il y a une révolte contre ça qui s'exprime dans cette culture. Alors, accepter tout ça en disant, ben, c'est notre culture, ça ne va pas de soi non plus. Donc, un problème. Et puis, quatrième problème, et je vais achever par là, quatrième problème, celui des ressorts spirituels les plus profonds. Et ça devient très délicat. Mais je pense pouvoir dire qu'il y a deux ressorts spirituels, ils sont très proches l'un de l'autre, très très profonds dans la plupart de ces mouvements, depuis le premier siècle sans doute. La recherche de plus, ce sont des chrétiens qui en veulent plus que les autres, toujours plus. Voilà ce qui les caractérise. Et deuxièmement, des chrétiens qui ont soif d'immédiateté, un contact immédiat avec Dieu, qu'ils puissent sentir immédiatement en eux. Ces deux choses ont été étudiées, mais je ne prends pas le temps de développer. Je souligne simplement que si c'est très délicat à traiter, c'est qu'en un sens, ce désir de plus et ce désir de contact immédiat avec le Seigneur sont positifs. Et nous partageons entièrement cette double aspiration. Nous espérons ne pas être comme l'église de Laodicée, des gens repus et satisfaits, disant « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». C'est sûr. Nous voulons en connaître plus, croître toujours. Et nous voulons connaître le Seigneur, être unis à lui. Mais alors pourquoi est-ce que je dis que c'est si délicat ? Parce qu'il y a aussi un usage, je crois, très, très périlleux et nocif spirituellement de cette double aspiration. Elle peut se corrompre, se dévoyer très subtilement. Le désir de plus peut être en fait une promotion du moi. On n'accepte pas l'obscurité de la place que le Seigneur nous a réservée. On n'accepte pas de vivre à une époque sans rien de sensationnel. On n'accepte pas de faire le petit boulot que le Seigneur nous a donné, là où il nous a placés. Non, on veut être quand même, d'une certaine façon. On veut des choses qui nous exaltent. Et ça, c'est une tentation subtile, je crois, d'orgueil. Ne pas accepter que dans cette vie, oui, notre homme extérieur continue de se détruire. Ben, ça fait mal. Ça fait mal. Et Dieu nous répond, ma grâce te suffit. Le Seigneur nous répond, ma grâce te suffit. Tu voudrais être là, dans une marche triomphale. Tu dois un peu te traîner. Hier, pour la réunion du Conseil, M. Jean-Charles nous a lu le texte de l'apôtre Paul au chapitre 4 de la deuxième aux Corinthiens, où il dit, nous sommes abattus, mais non perdus. Et plusieurs autres expressions comme ça. Abattus, oui, oui. Alors, je crois que le désir de plus masque souvent le refus de la condition que le Seigneur nous a faite en cette vie. Nous sommes encore pèlerins et voyageurs, toujours dans la chair, avec tout ce que ça implique de limites, de souffrances. Puis le deuxième aspect aussi est piégé. Immédiateté, d'accord, mais c'est par la parole, par la médiation de sa parole que Dieu veut travailler en nous. L'Esprit de Dieu travaille par la parole de Dieu, en accompagnant la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul souligne contre ces Corinthiens, trop effervescents au début du chapitre 12 de la première aux Corinthiens, en leur rappelant que quand ils étaient païens, ils étaient entraînés comme par un flot irrésistible vers des idoles muettes. Les deux traits, d'une part le fait d'être entraîné sans avoir le contrôle, et d'autre part le fait que c'était sans la médiation de la parole, des idoles muettes, souligne-t-il. Ils faisaient de telles expériences dans les cultes païens. Mais à l'opposé, l'apôtre Paul souligne que le Saint-Esprit se caractérise par la parole, la confession claire qu'il fait dire. Jésus-Christ est Seigneur. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors ça n'empêche pas une union avec le Seigneur lui-même, mais une union qui passe par l'exercice de la responsabilité. C'est sa parole que nous recevons, à laquelle nous obéissons dans une réponse libre, au lieu d'une fusion où nous sommes entraînés comme ça. Vous voyez ce qui est en jeu, au bout du compte, je crois. Mais bien sûr, je parle très brièvement, je résume des choses qui sont complexes. Et maintenant, j'espère que M. Jean-Charles et Mlle Ruol pourront aussi y compléter. Monsieur Patin, Eric, je me suis dit, il faut que je termine. Oui, alors, il me semble que ce désir de plus est très proche de ce mépris du peuple de Juda pour les eaux de Siloé. Le prophète leur dit, vous avez méprisé les eaux de Siloé, c'est la source qui est à Jérusalem, qui coule doucement, voyez, un filet d'eau, tout tranquillement, une eau quotidienne. Et vous avez rêvé de grandes choses, de vagues puissantes. Eh bien, je vais vous envoyer, moi, alors, le fleuve puissant, l'armée du roi d'Assyrie qui va dévaster le pays. Donc, j'ai pris ce texte parce qu'il me semble que cet accent sur les eaux de Siloé qui coulent doucement correspond à cette patience, à cette acceptation de la place modeste que le Seigneur peut nous donner dans son plan, dont je parlais à la fin.
Alors, comme j'avais parlé dimanche dernier, peut-être que Anne Ruolt veut dire quelque chose, et puis ensuite, je pourrais préciser certains points.
Je vais peut-être dire quelque chose qui, moi, me préoccupe beaucoup quand je vois l'humanité en général, pas seulement le milieu chrétien. C'est, je dirais, l'attrait du magique, de l'instantané, mais aussi de ce qui peut être magique, qui peut venir tout seul, sans effort, qui court-circuite finalement tout ce qui est créationnel, qui me place au-dessus, et qui permet aussi à ce que je n'ai pas besoin de mes frères et sœurs, qui me rend autonome, qui nourrit cette soif de puissance, d'autonomie qu'il y a au fin fond de chaque être humain. Alors ça se pratique de différentes manières, et cela me préoccupe en ce qui concerne les églises dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler ou les églises que j'ai pu visiter, et me rend attentive aussi quant à moi-même que l'exercice des dons que le Seigneur peut nous accorder, la piété, la manière dont nous la vivons dans nos églises, ne soit pas quelque chose de magique ou n'est pas ce relent de magique derrière. Et c'est là où le rapport à l'Écriture nous remet les pieds sur terre et nous rappelle que celui qui est puissant, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas nous, et nous sommes les uns et les autres au service du Seigneur pour travailler ensemble de manière interdépendante les uns des autres et non pas pour me mettre en avant, pour montrer aux autres que je suis puissant, j'ai une capacité qui est au-dessus, qui me fait passer au-dessus de toutes les règles qui existent autrement. Et cet aspect magique me semble peut-être aussi un élément qui pourrait conduire la suite du débat.
Pour moi personnellement, et je parle en fonction de la place que j'occupe dans l'Église, à savoir celle du pasteur. Et mon souci, c'est que l'ensemble de la communauté vive sa foi, et non pas seulement quelques-uns. Parce que je crois que bien souvent, on oublie que nous sommes un peuple en marche. Je l'avais signalé il y a quelques dimanches, et au sein de ce peuple, il y a toutes sortes de catégories de gens. Il y a des faibles, il y a des forts. Il y a des boiteux. Il y a des femmes enceintes, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas forcer la marche du peuple. C'est vrai qu'un berger, souvent, va en tête. Mais quand même, si vous observez les bergers, bien souvent, ils sont obligés de prendre en compte la marche du troupeau. Ils ne vont pas forcer. Et je crois que le Seigneur, lui aussi qui nous conduit, tient compte de tous ces aspects. Nous sommes un peuple en marche. Plusieurs passages de l'Écriture m'incitent à abonder dans ce sens. Par exemple, lorsque Jacob est allé pour trouver une épouse, il a trouvé les bergers du coin avec leur troupeau. Et Jacob leur a dit, ah, ça y est maintenant, et on va donner à boire à ceux qui sont là. Et les bergers ont dit, mais non, c'est pas comme ça que nous pratiquons. Nous attendons que tout le monde soit là, et alors on ouvre, on enlève la pierre et on abreuve le troupeau. Et cette convivialité, ne pas prendre son plaisir égoïstement tout seul, mais attendre les autres. Et c'est ce que Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 11, en parlant de la Sainte-Seine, savoir attendre les autres. Et cette attente doit me conduire dans la prière pour les autres, s'ils ne sont pas au même point que moi. Et non pas dire, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais faire, tu dois le faire et maintenant et tout de suite. Je dois, dans la prière, assister les autres, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent avancer. Voilà, et mon souci en tant que pasteur d'église. Autre texte encore, et c'est dans le Nouveau Testament, le chapitre 11 de Hébreux, qui nous parle de ces héros de la foi. Et ce chapitre se termine en disant que tous ces hommes-là et ces femmes-là, et qui ont reçu un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient demandé, ce qu'ils avaient vu. Mais ils ont vu cela de loin, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils parviennent sans nous à la perfection, et Dieu ayant pour nous des choses meilleures. Vous voyez, ces personnes-là, et qui avaient une foi excellente, ont dû en quelque sorte patienter à cause de nous, pour qu'ensemble, nous entrions dans les choses parfaites. Et dans l'Apocalypse aussi, il a parlé de ces personnes et de ces âmes qui sont là, qui demandent la justice, jusqu'à quand? Et tardes-tu à nous faire justice? Et on leur a dit, il faut attendre que le nombre des martyrs soit au complet, et alors, vous aurez satisfaction. Donc, dans l'Église, nous devons tenir compte de l'aspect divers que nous représentons, et marcher ensemble, porter s'il le faut, prier, patienter, et non pas prendre son plaisir tout seul, en disant, voilà, moi je suis arrivé, toi t'as qu'à faire pareil. Marche ou crève. Et là, moi, je n'accepte pas ça. En tant que pasteur, je ne peux pas accepter ça. Nous devons ensemble avancer. Et puis, un dernier point, et à propos de la musique et de la louange, on parle souvent de David et qui dansait. Et là, je dois faire remarquer deux choses. Premièrement, Ce n'est pas la musique qui a fait danser David. David s'est réjoui à cause de la grâce que Dieu a accordée. Dieu a permis que l'arche puisse être transportée. Et là, David a reçu cette bonne nouvelle et il a dansé. Et moi, je remarque parfois que, même ici, quand on a la musique, aux premières notes, sans même entendre les paroles, j'ai vu des gens qui commencent à trémousser. Alors, je dis ceci, avec une bonne musique, on peut mettre n'importe quelle parole et on danse quand même. Alors, ça, en tant que pasteur, je vous le dis, et ce n'est pas la musique qui doit nous faire danser, c'est la parole, c'est la bonne nouvelle qui doit nous réjouir. Et le Nouveau Testament nous dit aussi que la parole de Christ habite abondamment en vous et chantez sous l'inspiration de la grâce et non pas et par la musique. Donc, comme disait souvent Stéphane, la musique doit être le support et non pas et le support de la parole et non pas ce qui est en premier. Ça, c'est la première remarque que je vais faire au sujet de David. Et puis, la deuxième remarque, c'est que David, quand il a dansé comme cela, mais ce n'était pas dans le temple. Et quand vous lisez attentivement l'Ancien Testament, il y a ce souci de la rigueur dans le culte, de l'ordre. Il y a ce mot hébreu, seder, et tout doit être en ordre, même les pleins d'opposition, tout est placé en ordre. Et puis l'ordre est la crainte aussi devant Dieu, dans le culte. Alors, nous pouvons, je l'ai dit, être transportés si nous sommes, je ne sais pas, à la campagne, où nous pouvons nous bondir, sauter de joie, ça c'est devant le Seigneur. Mais je crois que lorsque nous sommes réunis pour le culte du Seigneur, nous devons célébrer ce culte en commun, ensemble, dans le respect, dans l'ordre et dans la crainte. Voilà ce que je voulais préciser.
À propos de ce dernier point, je voudrais souligner le danger de toute manipulation. Et le fait qu'il est très difficile de faire régner une véritable liberté chrétienne, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté pourtant, mais c'est très difficile dans les cultes, dans la mesure où il y a des sensibilités diverses et légitimes, hein, avec ce que dit l'Écriture. Lorsque tout le monde lève les bras, celui qui ne le fait pas se sent très facilement, plus ou moins jugé, et gêné. Et donc, il y a comme une contrainte qui s'exerce. Et donc, il n'y a pas une entière liberté. Inversement, quand personne ne lève les bras, ce qui est plus habituel, je pense, dans notre Église, c'est celui qui a envie de lever les bras. Et c'est très biblique, lever les bras. C'est mentionné dans la Bible. C'est lui qui se sent comme contraint. Il a peur de se faire juger comme un excité par ceux qui sont alentour. C'est vraiment difficile. Et nous avons sans doute beaucoup à apprendre en tant qu'Église à propos de cette véritable liberté dans le respect mutuel de la juste diversité. Et y a-t-il des questions Je ne sais pas si M. Jean-Charles veut parler encore, mais je pense qu'il faudrait dialoguer. M. Patin, Mlle Sorante après, je crois. Oui.
Référons-nous à ces témoignages et je pense qu'on sera très édifié. Lui qui n'a pas regardé que le droit a arraché d'être égal de Dieu, mais s'est dépouillé humblement pour être serviteur de tous.
Et il est sûr que le Seigneur Jésus, avec tous les miracles qu'il fait, donne l'impression d'une personnalité très sereine, très stable, qui évolue dignement, qui inspire un grand respect autour de lui, sans pourtant les paralyser, ses disciples. Ses disciples, parfois, lui font des reproches, donc ça montrait qu'il y avait suffisamment de liberté pour qu'il l'exprime, mais en même temps, par moments, ont peur de l'interroger, parce que de lui émane une telle autorité. Je crois que c'est intéressant à observer.
Je voudrais compléter aussi, et c'est vrai qu'il y a ce côté serein et équilibre, et qui peut-être pousse les disciples au respect, mais il y a eu à Gethsémané ce moment où il a poussé les cris, où il était dans l'angoisse, et à ce moment-là, ses disciples étaient à l'écart. C'est curieux, hein. M. Berger a demandé la parole, je crois.
Et puis Mlle Sorante aussi, je crois. Mlle Sorante avant M. Berger, je pense. Oui. Donc la question porte sur le parler en langue. J'ai mentionné tout à l'heure brièvement que je crois que le parler en langue biblique est un usage de langue étrangère réelle. Et la question qui est posée alors concerne les langues des anges mentionnées par l'apôtre Paul. C'est au début du 13e chapitre de la première aux Corinthiens. C'est le seul passage, ce verset, dans tout le Nouveau Testament qui pourrait suggérer qu'il ne s'agit pas de langue terrestre réelle. Autrement, tous les autres, c'est-à-dire acte 2, acte 19, et puis 1 Corinthiens 12 et 14, je crois, ne suggèrent jamais rien d'autre. Je pense pouvoir le prouver, mais vous pouvez le lire dans mon livre sur le péché et la rédemption, où je donne des références. Le seul passage, donc, qui pourrait entre-ouvrir la porte sur autre chose, c'est ce verset que vous citez, au début du chapitre 13. Et il me semble qu'il peut très bien se comprendre comme une envolée oratoire de l'apôtre, parce que c'est une situation hypothétique. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. Donc, il ne dit pas, quand on parle en langue dans l'Église, certains utilisent des langues des anges. Il ne l'affirme pas. On peut éventuellement le supposer, mais ce n'est même pas dit, et on peut aussi penser, puisque partout ailleurs, il a l'air de ne parler que de langues humaines, que c'est une envolée oratoire pour dire quand même ce serait un don encore plus extraordinaire que le don de parler en langue courant. Quand ce serait des langues d'anges, même ça, sans amour, ça ne vaudrait rien. Oui. Alors, normalement, c'est M. Berger qui aurait dû avoir la parole le premier, excusez-moi, mais je pense que je peux répondre brièvement à cette question. En ce qui concerne la parole du Seigneur Jésus, qui est dans Jean, chapitre 14, disant que ses disciples, demandant toutes choses en son nom au Père, cela leur serait donné, feraient aussi des œuvres plus grandes qu'il a faite, cette parole du Seigneur Jésus ne me semble pas se référer d'abord au miracle. Parce que il semble pas possible d'imaginer de plus grands miracles que ceux que Jésus a lui-même fait, en intensité. Ressusciter des morts, comme il l'a fait, même les apôtres, dans le livre des Actes des apôtres, ne l'ont pas fait comme il l'a fait. Parce que Eutychus a été relevé, juste après sa chute, par l'apôtre Paul. Mais Lazare, il avait été 3 jours au tombeau, donc c'était un miracle de résurrection plus grand, et les apôtres n'ont même pas fait ça. Donc, comprendre cette parole d'œuvre plus prodigieuse de miracle, plus spectaculaire encore, ça ne semble pas donc correspondre. Je crois que le sens est celui de l'extension à toutes les nations de la mission que le Christ a accomplie. Jésus, dans les jours de sa chair, est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais justement, il n'a commencé à attirer tous les hommes à lui qu'après la croix et sa résurrection, par le moyen de ses disciples envoyés. Donc c'est par l'extension, non pas par l'intensité des miracles, mais par l'extension de l'œuvre, que les œuvres des disciples sont plus grandes que celles du maître lui-même. Oui. Alors pour la plénitude, je crois en effet qu'il faut distinguer la réception de l'esprit, ou baptême de l'esprit, de la plénitude, qui est une expérience qui se connaît plusieurs fois et qui vient après dans la vie du chrétien. J'ai même, je crois, réussi à déterminer qu'il y a deux sortes de plénitude, en suivant l'usage de deux mots grecs différents dans l'original. Mais je pense qu'il suffit que je dise ça maintenant, étant donné l'heure atteinte. J'ai écrit autrefois un article là-dessus dans la revue Ictus, qui peut encore donc être consulté, sur ces deux types de plénitude, la plénitude saturation et la plénitude afflux instantané. Alors, Monsieur Berger avait demandé la parole. Merci bien. Vous voulez intervenir? Oui, oui, madame. Oui. Sur le point des mouvements corporels, quand un chant de louange commence, je laisserai Monsieur Jean-Charles répondre, puisque c'est un point qu'il a mentionné lui-même. Et je voudrais répondre essentiellement au premier élément, parce qu'il concerne donc l'interprétation biblique, et je crois que c'est important, même si c'est un point assez précis et particulier. Donc il s'agit dans la première aux Corinthiens, au chapitre 14, de ce que Paul dit sur le parler en langue, et notre sœur a compris que quand il disait que quelqu'un qui parle en langue est un barbare pour celui qui le parle, pour celui qui entend. Cela veut dire que c'est un parler en langue qui n'est pas dans une langue étrangère réelle. Alors, à mon avis, ce n'est pas la juste compréhension de ces versets. Donc, je lis, je pense, toute la section des versets 7 à 11, ou même 12, de ce chapitre 14 de la première aux Corinthiens, pour que chacun puisse voir le contexte. Si des objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe? Si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langages, aucun n'est inarticulé. Et la note dit, c'est-à-dire inintelligible dans la note de la Bible à la colombe. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à les avoir en abondance. Alors je comprends ce paragraphe de la manière suivante, quant à moi. Donc autrement, je crois que notre sœur. Je comprends que Paul axe d'abord sa recommandation, qui veut freiner, n'est-ce pas, le parler en langue dans les assemblées à Corinthe, en disant, si on ne comprend pas, ça, c'est comme une trompette qui rendrait un son confus, il vaudrait mieux s'abstenir, si on ne comprend pas. Cela est comme confus. Mais du coup, il prévoit la réplique de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et qui voudraient parler en langue. Ils répondent, mais toutes les langues du monde ne sont pas des langues dépourvues de sens. Et ce que je dis en langue sans le comprendre a un sens. Oui, mais répond l'apôtre Paul, oui, mais si l'autre ne sait pas ce que je dis, je suis un barbare pour lui, si lui parle et que je ne connais pas la langue, donc Paul accepte l'objection, en quelque sorte, que lui fait l'interlocuteur. Oui, c'est vrai, ce sont des langages qui ont un sens. Toutes les langues au monde ont une signification. Ce n'est pas comme une trompette qui rend un son confus. Mais si je ne connais pas la langue, si on ne la connaît pas autour de moi, ça revient au même, dit l'apôtre Paul. Ça fait que tout est reçu dans la confusion. Alors, c'est cette manière d'argumenter de l'apôtre qui me convainc que pour lui, il s'agit de langues réelles, parce qu'il accepte l'objection qui lui est faite, toutes les langues du monde ont un sens, sont intelligibles en elles-mêmes. Mais c'est dans l'assemblée, quand personne ne comprend, que ça devient de la confusion. Voilà donc ma façon, au moins, de comprendre ces versets qu'a évoqué notre sœur. C'était un point, je crois, intéressant à noter. Pour le reste, je dirais juste une chose quant à l'usage du parler en langue dans notre Église. Moi, je me réjouis tout à fait que notre sœur exerce ce don. J'espère bien que c'est le don biblique, donc, dans des langues étrangères, par le Saint-Esprit. Et je crois que ça, c'est pour l'édification en privé. Je pense que pour des raisons d'égard fraternel dans notre Église, si c'était lors du culte que cela se produisait, cela créerait des remous et que ce n'aurait pas une conséquence positive. Ce ne serait pas une transgression par rapport au modèle de Corinthe, d'accord. Mais je pense que dans notre situation, par égard fraternel, et pour correspondre aux paroles que disait M. Jean-Charles tout à l'heure sur la nécessité d'être ensemble, ce n'aurait pas un effet positif.
Je voulais préciser à propos de la musique. Je crois que ce qu'a dit notre sœur, c'est ce que je souhaite pour tous les membres, c'est-à-dire venir déjà au culte avec la joie dans le cœur. Et c'est pour ça que je plaide toujours pour que nous préparions nos cultes. J'ai entendu les uns et les autres dire, moi je ne vais pas venir parce que je ne suis pas motivé, l'ambiance n'est pas... Bon, alors moi je dis comme notre sœur, nous devons nous préparer à venir au culte avec la joie dans le cœur parce que nous venons devant le Seigneur. Et à ce moment-là, nous n'allons pas attendre que ce soit la musique qui nous donne la joie, mais parce que nous l'avons déjà. Et c'est pour ça qu'une fois, j'avais dit au cours du culte, mes amis, vous avez chanté, je ne sais pas comme qui, parce que vous dites des paroles et très belles et très sérieuses, et puis vous le dites comme ça. Non mais, alors, je crois qu'il faut, synchroniser les choses, il faut que les paroles que nous chantions, et nous les chantions avec notre cœur. Et cela, nous ne devons pas attendre que ce soit la musique et qui nous donne le ton, si j'ose dire, mais il faut que la joie du Seigneur soit en nous déjà. Il y a un des cantiques qui dit « J'entrerai dans tes portes avec la joie dans le cœur ». Et bien c'est ainsi que nous devons venir au temple. Et à ce moment-là, nous chantons ensemble de tout notre cœur.
Il y a M. Sidamon et M. Richard, puis peut-être faudra-t-il arrêter.
Oui, il est moins le cas. L'heure, oui.
Serait-il pas équitable d'inviter par exemple un pasteur proche de l'église, par exemple André Boulanger, à un institut public comme ici, et qu'il expose aussi ses points de vue? Non,
c'est une suggestion que le Conseil pourra peut-être considérer.